Bonjour, ici Europe numéro 1.
Voici le troisième épisode consacré à l'année 1958. Au programme, le couac de la Callas à l'Opéra de Rome. Un Anglais qui est le premier à traverser l'Antarctique à pied. Nantes qui décide de fermer son tramway. Et à Paris, l'élection du roi des camelots.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1958.
Le 2 janvier 1958, la célèbre chanteuse lyrique Maria Callas s'apprête à ouvrir la saison de l'Opéra de Rome, dans un rôle qu'elle connaît bien, Norma de Bellini. Le président de la République italienne est dans la salle.
Jamais en effet, ce théâtre ne fut plus bondé par un public des plus chics et toute l'élite de la capitale était présente. Le président de la République, le président du Conseil, tous les ambassadeurs accrédités auprès du Quirinal et parmi le public, on notait de nombreux artistes. Gina Lollobrigida, Anna Magnani, le peintre Giorgio De Chirico, mais très noté surtout la journaliste américaine Elsa Maxwell qui joua durant cette soirée un des rôles des plus importants. Soirée donc exceptionnelle aussi pour les prix des places payées à la Bourse Noire à des chiffres exorbitants. 50 000 lire pour un fauteuil qui n'en valait que 15.
Mise en coulisses, la Callas est inquiète, car depuis quelques jours, sa voix lui joue des tours. Elle a bien tenté d'annuler, mais le directeur de l'opéra n'a rien voulu entendre. Et ce qui est étonnant, c'est que dès qu'elle entre en scène, on dirait que le public se doute de quelque chose.
Mais que s'est-il passé derrière les coulisses? À peine la grande Meneghini Callas fit son apparition et fut appelée aux honneurs de la rampe, on entendit quelques sifflements et les applaudissements furent faibles.
Maria Callas entame le premier acte. Tout va bien. Mais à la fin de l'air célébrissime Casta Diva, la Callas sent qu'elle est allée au bout de ses capacités vocales. Heureusement, c'est l'entracte.
Mais à la fin du premier acte, la Callas dut se présenter 7 fois de suite pour recevoir les ovations du public. Entracte et rappel du public en salle. Puis silence. Et le public attendit patiemment pendant plus d'une demi-heure. Tout à coup, on vit le président de la République se lever, quitter sa loge, suivi de ses ministres, et quelques minutes plus tard, le public fut averti par un haut-parleur que le spectacle devait être interrompu à cause d'une soudaine indisposition de Madame Callas.
Maria Callas ne réapparaît pas sur scène. Elle reste cloîtrée dans sa loge. Le public est furieux.
Selon des déclarations de la Callas, il s'agit en effet d'une soudaine indisposition et de son impossibilité de continuer la représentation. Mais pourtant, selon des indiscrétions, on croit savoir qu'elle fut froissée par l'accueil du public au début de l'opéra ou qu'il s'agit d'un complot publicitaire conseillé par sa grande amie, la journaliste Elsa Maxwell. Car celle-ci fut la seule présente dans la loge de Madame Callas avant qu'elle n'annonçât sa décision. N'empêche que ce geste est sévèrement critiqué à Rome et en Italie et que la direction de l'Opéra de Rome a fait appel à la chanteuse Anita Cerquetti qui prendra la place et le rôle de la Callas durant le spectacle de samedi soir. Ici John Pazetti qui vous a parlé de Rome, Europe numéro 1.
Le lendemain, nombreux sont ceux qui exigent des excuses. Mais enfin, la Callas doit-elle s'excuser d'être malade? Elle est malade. Son médecin le confirme.
Et voici ce que nous dit le professeur Umberto De Martini, le médecin de Madame Callas.
Nous voulons savoir quelle est la vérité, et seulement la vérité au point de vue médecine, sur la maladie de Madame Meneghini Callas.
Vuole questo in italiano?
In francese, per favore.
Alors écoutez, la vérité est celle-ci. Madame Meneghini Callas avait hier 38 de fièvre. Alors certainement avec 38 de fièvre, elle ne pouvait pas chanter. Et elle avait aussi une bronchite. Alors, bronchite aiguë, 38 de fièvre, on ne peut pas chanter.
Elle est malade, mais manifestement, il y en a qui n'y croient pas.
Le député Amiconi du Parti Socialiste a interrogé le président du Conseil, Zoli, au cours d'une assemblée à la Chambre pour être informé sur la vraie raison de ce scandale et aussi pour savoir si les autorités étaient au courant que des billets étaient vendus à l'entrée du théâtre au prix de 125 000 lires. Plusieurs autres députés ont aussi demandé au président du Conseil qu'une décision soit prise pour éviter que des caprices d'une artiste puissent provoquer des répercussions d'une telle envergure. La journaliste Elsa Maxwell, présente à Rome, qui avec un de ses articles a offensé la presse romaine en défendant son ami La Callas, a été longuement sifflée devant son hôtel, tandis que Mme Meneghini Callas serait au lit atteinte d'une bronchite qu'on appelle ici la grande scusa, la grande excuse.
L'affaire fait scandale et le directeur de l'opéra décide de la remplacer par une autre soprano, Anita Cerchetti. Et en attendant, La Callas plie bagage.
C'est à 13h50, en grand secret, que Madame Maria Meneghini Callas, dénommée la plus belle voix du monde, a quitté la ville éternelle. Un wagon avait été réservé pour elle et pour son mari en direction de Milan. Devant la gare de Termini, un régiment de police avait bloqué toutes les entrées, ne laissant passer que les voyageurs et les quelques journalistes présents furent poliment mais sévèrement éloignés. Avant de quitter l'hôtel Quirinale, où Madame Callas fut pendant une semaine prisonnière volontaire, elle fit cette déclaration à un photographe. « Laissez-moi en paix. Vous saurez la vérité sur mon épisode romain samedi en lisant un hebdomadaire milanais. Monsieur Meneghini Callas a confirmé le départ pour les États-Unis de sa femme qui reste fixée pour le 15 janvier. Ainsi se termine le scandale de l'Opéra de Rome et une fois de plus, les fêtes ont démontré que le public a toujours raison. »
Mais ça n'est pas fini. Quelques jours plus tard, voilà que la remplaçante de La Callas, Anita Cerchetti, fait un malaise sur scène.
Dans les milieux del bel canto en Italie, on commence à douter qu'une étrange malédiction poursuive les vedettes de l'opéra. D'abord le scandale Callas, ensuite ce fut le tour de Anita Cerchetti qui fut victime d'un malaise et qui perdit soudainement la mémoire. Mais si une malédiction aurait été prononcée contre les chanteuses de l'opéra, qui en serait l'auteur? La Callas elle-même, ou bien Renata Tebaldi, sa redoutée adversaire, ou la journaliste américaine Elsa Maxwell, qui eut un grand rôle durant le scandale romain en conseillant Maria Meneghini Callas à ne plus se représenter devant le public. Malédiction, superstition, coïncidence, n'empêche qu'une quatrième soprano, et plus précisément Caterina Mancini, qui devait remplacer La Callas aux représentations de la Norma à Paris, s'est alitée et ne peut prononcer aucune parole. Les médecins affirment qu'il s'agit de la grippe asiatique. Les directeurs des théâtres disent qu'il s'agit d'une panique collective et le public accuse la journaliste Elsa Maxwell de cette malédiction.
Pendant ce temps-là, Maria Callas est en route pour l'Amérique et elle fait une escale à Paris-Orly où l'attendent des dizaines de journalistes.
La voix que vous entendez est celle que les Romains n'ont pas entendue. C'est la voix de Marie Meneghini, dite Maria Callas, autrement dit encore La Callas. La Callas, cet après-midi, passe par Paris, venant de Milan et se rendant à Chicago et à New York, où elle va chanter, où elle va essayer de faire ce qu'elle n'a pas pu faire à Rome, c'est-à-dire chanter le deuxième acte de la Norma de Bellini.
Et le journaliste d'Europe numéro 1 réussit tant bien que mal à lui voler quelques mots.
Je réussis à m'approcher de La Callas de Galles. Pourrais-je d'abord savoir si vous allez retourner un jour à Rome?
Je n'ai pas le temps et l'occasion maintenant. En passant...
Lorsque vous êtes sorti pour la première fois de chez vous, après cet incident, est-ce qu'il y avait beaucoup de Romains dans les rues qui vous attendaient?
Bien, il y avait beaucoup de photographies, ça c'est tout.
Vous savez que depuis cet incident, la vente de vos disques en France a augmenté de 75%. Lorsque vous êtes tombé brusquement à Faune à l'Opéra de Rome, vous attendiez-vous à cette répercussion et à cette publicité?
Pardon, je voudrais corriger, je ne suis pas tombée. Moi, je me suis retirée avant de tomber. pardon que je le dise ça, mais vous voyez un artiste avec mon nom dans une soirée, comme ça, quand elle n'a pas leur voix, elle ne peut pas chanter.
Vous allez maintenant vous rendre aux États-Unis, et si par oui. hasard il vous arrivait la même chose, disons-le, devant le président Eisenhower, que feriez-vous?
Bien, on ne peut pas chanter sans voix. On peut chanter sans les jambes, ou avec mal à la tête, ou avec de la fièvre, mais c'est un peu difficile de chanter sans la voix. Moi, j'ai fait ce que je devais faire, et ça met de plaisir à voir les amis, ça c'est vrai. Mais malheureusement, on ne peut pas porter la voix.
Est-ce que vous venez chanter?
Je vous demande pardon, parce que je suis un peu émue, et pas seulement ça, je suis confuse, et je ne comprends ce que je dis. Mais je ne comprends pas. Tu parles avec tout le monde, tu parles. Comment est-ce que c'est possible?
Une question simplement.
Non, je vous en prie.
La Callas, soutenue par deux journalistes, se retire dans un salon pour se reposer pendant que les autres journalistes se jettent sur les petits fours et sur le champagne.
Importunée par les questions du reporter, la Callas préfère s'éclipser. Mais ça n'est toujours pas fini. La malédiction qui frappe l'Opéra de Rome continue. Lors d'une répétition de l'opéra de Verdi Don Carlo, deux ténors, Franco Corelli et Boris Christoph, en viennent aux mains.
Le basse bulgare Boris Christoph attaque à coups d'épée son confrère, le ténor Franco Corelli. Un duel dans le vrai sens du mot, sur les planches de l'opéra à Rome. Mais écoutons la version de M. Franco Corelli.
Le vainqueur, pour l'instant, de ce duel de l'opéra. Écoutez. Je suis habitué à étudier mon personnage et mon rôle profondément et avec une grande psychologie. Pour porter votre voix vers le public, vous avez dû vous déplacer. Je devais me déplacer légèrement en avant. Oui. Cette action n'a pas plu à M. Christophe. Discussion. Mais j'ai maintenu mon point de vue. M. Christophe a prononcé alors un frappé propre. Laisse-le faire. Je penserai à lui après.
Et ça n'est toujours pas fini. Lors de la deuxième répétition, rebelote. Et cette fois-ci, Boris Christophe a un sabre dans les mains.
À la deuxième répétition, M. Christophe s'est trouvé exactement sur la position de mon assolo, prenant le sabre d'un soldat. M'a attaqué, m'a blessé. La générale a été suspendue pour quelque temps. Le public sera le juge.
Et maintenant, quand viendrez-vous en France, monsieur?
Dans le mois de mars, j'irai à Paris, à Nice, à Enghien. Chanter naturellement.
Bon, merci beaucoup. Je vois que vous êtes un petit peu nerveux, mais il y a de quoi.
Alors, en tout cas, bonne chance et surtout bonne guérison pour votre fameuse bête. Au revoir.
Ici John Pasetti qui vous a parlé de Rome, Europe numéro 1.
C'était l'air de Casta Diva, tiré de Norma de Bellini, interprété ici par Maria Callas, en décembre 1958, à l'Opéra Garnier, à Paris.
1958, Ondelat raconte sur Europe 1.
En 1958, l'explorateur britannique Vivian Fuchs décide de se lancer dans la traversée de l'Antarctique. Ça n'a jamais été fait. Et pour ça, il s'adjoint les services d'une célébrité, l'alpiniste néo-zélandais Edmund Hillary, premier vainqueur de l'Everest il y a 5 ans. Et voilà ce qui est prévu. Ils partiront chacun d'une extrémité de l'Antarctique. Hillary aura pour mission de baliser la deuxième partie du parcours. Rien de plus. Ils ont rendez-vous à mi-chemin, à quelques kilomètres du pôle. Hillary arrive le premier au point de rendez-vous. Normalement, il est censé attendre Fuchs pour le briefer sur la suite. Mais ça ne se passe pas du tout comme prévu.
Les Anglais ce soir se posent une question. Ils se demandent si le rendez-vous du pôle sud aura lieu. Ce rendez-vous devait réunir au pôle sud le docteur Fuchs et Sir Edmund Hillary. Partant de deux extrémités opposées du continent antarctique, les deux hommes avaient depuis quelques jours transformé leur expédition scientifique en une sorte de compétition sportive. Du moins, peut-on le penser, en dépit des démentis publiés par le comité britannique de la géophysique qui finance l'expédition placée dans son ensemble sous l'autorité du docteur Fuchs.
Le 3 janvier 1958, lorsqu'Edmund Hillary arrive au point de rendez-vous, il décide de poursuivre à bride abattue jusqu'au pôle sud, sans attendre Vivian Fuchs.
Le vainqueur de l'Everest a donc atteint le point zéro le premier. Et les journalistes préparaient leurs plus belles plumes pour décrire la rencontre émouvante qui ne pouvait manquer d'avoir lieu demain ou après-demain entre lui et le docteur Fuchs, lorsque Fuchs et ses 12 compagnons atteindraient le point zéro à leur tour. Mais ce soir, c'est le désarroi. D'une part, on ne sait pas où en est exactement le docteur Fuchs. Hier, il avait signalé sa position à 300 km du pôle. « Pas du tout », a annoncé Hillary ce matin. « Je viens de réussir à le contacter par radio. Il est encore à 550 km du pôle et il est actuellement en difficulté. » Le siège londonien de l'expédition antarctique affirme pour sa part « Nous avons de bonnes raisons de croire que le docteur Fuchs est à moins de 100 km du pôle et qu'il atteindra le point zéro demain. »
Eh oui, Hillary a vaincu l'Everest il y a 5 ans. C'est un gagneur. Il n'aime pas les seconds rôles. Et donc, il ne respecte pas le pacte noué avec Vivian Fuchs, qui est pourtant le chef d'expédition. Il va au pôle sud sans lui. Et après, il décide de rentrer en avion sans l'attendre.
Sir Edmund Hillary affirme qu'il n'attendra pas le docteur Fuchs et qu'il prendra le premier avion quittant la base américaine du point zéro pour rejoindre sa propre base de McMurdo Sound sur la côte du continent antarctique. Ce premier avion partira sans doute lundi. Les chenillettes, nous les laisserons ici. Elles y seront utiles, a dit le vainqueur de l'Everest. Pas question de faire le retour avec ses engins. J'ai eu ma part de glace et de crevasses. Ainsi, Sir Edmund Hillary ne semble pas tenir à rencontrer le chef de son expédition, le docteur Fuchs. Mais on a surtout l'impression que Sir Edmund Hillary ne tient pas plus à affronter le chef de son expédition, le docteur Fuchs, que les crevasses du chemin du retour. Ici Maurice Lemay qui vous a parlé de Londres, Europe numéro 1.
Mais en plus d'abandonner Fuchs pour la suite de la traversée, Edmund Hillary fait pire. Il lui conseille par radio de renoncer, d'arrêter une fois arrivé au pôle sud. Il prétend que les conditions météo sont défavorables. Mais on se dit que peut-être la vedette de l'Everest, jaloux, veut priver son chef d'expédition d'une victoire. Pour en avoir le cœur net, le journaliste d'Europe numéro 1, Maurice Lemay, décide de se rendre dans les bureaux de l'expédition à Londres.
Je suis actuellement dans ses bureaux au 6e étage d'un immeuble de Victoria Street, à terre des peaux d'ours blancs, sur un secrétaire, un magnifique pingouin royal empaillé, sur les murs des cartes et des photos. Je voudrais demander à l'amiral Parry, secrétaire de l'expédition antarctique, de faire le point après ces quelques jours de messages contradictoires et de désarroi.
The last signal we had from Dr. Fuchs was on the 4th of January.
Le dernier message que nous avons reçu du docteur Fuchs date du 4 janvier. Il était alors à 300 milles du pôle.
And he hopes to be at the pole in perhaps about 14 or 15 days time.
Et le docteur Fuchs espère atteindre le pôle dans environ 14 ou 15 jours. Il y a actuellement, semble-t-il, un conflit, hein, tout au moins un conflit d'opinion entre le docteur Fuchs et Sir Edmund Hillary. Pensez-vous qu'il y ait également un conflit personnel entre les deux hommes?
It has been suggested that there is a quarrel between Sir Edmund Hillary and Dr. Fuchs, but I can assure you that that's not the case at all. It is just a difference of opinion. Sir Edmund has said what he thinks are the likely dangers, And Dr. Fuchs has said, well, he appreciates that, but considers that in spite of Sir Edmund Hillary's comments, he can still successfully complete his journey.
On a dit qu'il y avait une querelle entre les deux hommes, mais je puis vous assurer qu'il n'en est rien. C'est simplement une différence d'opinion. Sir Edmund Hillary pense que le docteur Fuchs devrait maintenant rester au pôle et renoncer à traverser entièrement le continent antarctique. Quant au docteur Fuchs, il est reconnaissant de cet avertissement à Sir Edmund Hillary, mais il estime qu'il ne doit pas en tenir compte. C'est simplement une différence d'opinion.
Peu convaincu par les explications fournies, le reporter d'Europe numéro 1 se tourne alors vers Paul-Émile Victor, grand explorateur du pôle Nord et Sud et chef des explorations polaires françaises.
Eh bien, le secrétaire de l'expédition antarctique vient à peine de sortir et c'est Paul-Émile Victor qui fait son entrée dans ce bureau.
Je connais, pour l'avoir vu par avion plusieurs fois, la route du pôle Sud vers la base néo-zélandaise, c'est-à-dire la route utilisée par Edmund Hillary. De plus, l'année dernière, au mois de février, j'ai fait un certain nombre de vols, également avec Edmund Hillary, des vols de reconnaissance à travers les chaînes de montagne.
Alors, que pensez-vous de la divergence d'opinion qui existe entre le docteur Fuchs et Sir Edmund Hillary?
Je suis content que vous vous soyez repris après avoir dit différent. Je suis persuadé qu'il n'y a pas de différent. Il y a simplement, à l'intérieur de l'expédition, deux personnes qui ont une opinion différentes et chacun a le droit de donner son opinion. Je dois dire qu'avec les éléments que je viens d'avoir ici au bureau de l'expédition transantarctique, je ne vois pas actuellement aucune raison qui pourrait arrêter le docteur Fuchs dans sa traversée de l'Antarctique, aucune raison non plus pour que le docteur Fuchs soit obligé d'arrêter les recherches scientifiques, pas plus d'ailleurs ses difficultés techniques que l'arrivée de l'hiver. Étant donné en particulier que des températures relativement basses, certains n'ont pas arrêté de véhicule jusqu'à présent, que même la nuit polaire qui viendra seulement dans quelques mois ne risque pas de les arrêter, d'autant plus qu'ils ont les 700 derniers milles à faire le long d'un trajet balisé par le groupe de Edmund Hillary.
Donc le docteur Fuchs doit mener à bien son expédition jusqu'au bout. Eh bien, Paul-Émile Victor, je vous remercie pour cette opinion éclairée. Ici Maurice Lemay qui vous a parlé de Londres, Europe numéro 1.
Edmund Hillary l'a trahi? Ah bah tant pis. Fuchs décide de ne pas tenir compte de ses mises en garde. Le 19 janvier 58, 16 jours après lui, il atteint enfin le pôle Sud. Et comme prévu, il poursuit sa route. Et le 2 mars 58, il parvient à rallier l'autre extrémité du continent antarctique, un exploit qu'il est le premier à réaliser. Et peu importe finalement si Edmund Hillary lui a mis des bâtons dans les roues.
1958, on de la traconte sur Europe 1.
Il a...
The Champs, mené par le saxophoniste américain Danny Fiores, avec leur titre Tequila.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1958.
En 1958, les tramways ne sont plus nommés Tésir. Plusieurs grandes villes françaises ont pris la décision de les supprimer. Comme Nantes. Même si les habitants le surnommaient le Péril Jaune, en référence à sa couleur et à sa vétusté, ils éprouvent un petit pincement au cœur au moment de tourner la page. Alors, le 26 janvier 58, la ville décide d'organiser une fête pour marquer le coup.
Aujourd'hui, jour J pour les tramways de Nantes. Monsieur Roch, directeur des tramways de Nantes, cette grande journée a été organisée en quel honneur ?
Cette journée fait suite à l'inauguration officielle des nouveaux services d'autobus que nous avons mis en marche pour terminer la rénovation du réseau. Et la dernière tranche qui consacre la fin des tramways a pris effet aujourd'hui. La manifestation d'aujourd'hui, qui revêt d'ailleurs un caractère d'une certaine ampleur, si j'en juge par la foule qui se presse ici et dans tous les autres points, a été organisée par le président du comité des fêtes et nous lui avons simplement prêté notre concours.
Si l'arrivée de l'autobus et de l'automobile semble inéluctable, le tramway faisait quand même partie de la vie des Nantais depuis 80 ans.
Monsieur le président du comité des fêtes, pourquoi ces grandes réjouissances qui marquent la fin des tramways de Nantes ? Est-ce la récompense de 80 années de bons loyaux au service ou la joie de les voir disparaître ?
Ben c'est un petit peu les deux. Les tramways sont un peu comme les trois mâts, comme les diligences. On est heureux de les voir disparaître, mais tout de même avec une certaine nostalgie. Parce qu'on se demande par qui ils seront remplacés. Moi, j'estime que les transports en commun étaient bien supérieurs à tout ce qui pouvait exister. Au point de vue sentimental, premièrement, où on pouvait trouver des rencontres et des bonnes fortunes. Un autre point de vue, c'est que ça créait une collectivité, mieux que les gens qui voyagent en vélocipède, mieux que les gens qui voyagent en motocyclette et même ceux qui voyagent dans des voitures à deux roues nommées Vespa, je crois de l'empereur Vespasien, il voulait qu'elles soient bien assises. Mais moi, je vous assure que j'ai souvent pris le tramway dans l'intention de trouver une receveuse charmante ou une voyageuse évidemment sympathique.
L'histoire ne dit pas si ce monsieur a trouvé chaussure à son pied. Quoi qu'il en soit, si on écoute les uns et les autres, le tramway serait un lieu de sociabilisation et de rencontre. Alors forcément, ce jour-là, l'ambiance n'est pas à l'éloge du transport individuel. Au contraire, au moment de prendre la parole, le conducteur du tramway enfonce le clou.
Ce n'est pas sans une émotion indescriptible que ce soir, je rattache le cordon symbolique et qui va pour la dernière fois couper la voie au train nantais. Je réprouve, messieurs, sur la voie dans laquelle vous vous lancez. Je réprouve cette voie dans laquelle vous vous lancez et qui est celle du transport individuel. Le transport individuel, messieurs, c'est quelque chose d'épouvantable. Vous voulez voyager seul. Alors que vous, messieurs, vous, mesdames, vous avez peut-être connu un mari, un amant, un ami dans ce tram si sympathique et dans ces banquettes dans lesquelles vous vous plaisiez. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous ont créé une famille, non pas dans les tramways, mais que le premier départ a été ce tram qui a quelque chose de sympathique et de sentimental. Et comme dirait un latiniste distingué, Motricium Terminus Tramino.
Et après ce discours d'adieu, le conducteur du tramway, le Wattman, se voit remettre la médaille de la ville.
Le dernier Wattman reçoit des mains de M. Delru, président du comité des fêtes, une grande médaille, une médaille aux armes de Nantes. Et voici l'accolade symbolique. Ici Ernest Bourgoin qui vous a parlé de Nantes, Europe numéro 1.
Mais Nantes n'est absolument pas la seule à supprimer le tramway. D'autres villes comme Bordeaux ou Nancy suivent son exemple cette année-là. En 1958, le tramway est mort, vive l'automobile. Il n'y a d'ailleurs qu'à voir la foule qui se presse au salon, au Grand Palais à Paris.
À Paris, le président de la République a été l'un des premiers visiteurs du 45e salon de l'automobile. C'est sous ce signe de l'élégance qu'il faut placer les quelques nouveautés décapotables. Côté accessoires, le phare code européen, relevé sur la droite, accroît la portée de la luminosité vers le bas-côté et apporte une sécurité supplémentaire. Chez Simca, l'écurie Aronde est présentée au grand complet avec la nouvelle née, la Monaco P60, que la Benjamine de la chanson, Rosita, a pu contempler de plus près grâce à la complaisance de Raymond DeVos. Salon sans histoire, mais où bien des rêves sont possibles. Rêve de vitesse au volant d'une Jaguar, par exemple, d'une Jag, comme disent certaines. Les voitures de grand sport, de la Ferrari à l'Alfa Romeo, sont là pour alimenter toutes les imaginations. Le rêve de la vitesse n'est-il pas le rêve de notre époque?
L'année 1958.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous.
Serge Gainsbourg avec son tout premier succès en 1958, Le Poinçonneur des Lilas.
1958, Ondelat raconte sur Europe 1.
En 1958, une tradition perdure à Paris. L'élection du roi des Camelots qui a lieu tous les 6 janvier depuis le début du siècle. Un reporter d'Europe numéro 1 est dépêché boulevard Montparnasse pour assister aux épreuves éliminatoires.
Je vais vous demander de vous approcher gentiment de la sainte table, de façon que je puisse vous montrer ce bas étonnant, ce bas qui m'a étonné moi-même, puisque la première...
Aujourd'hui, 6 janvier 1958, on tire les rois. Boulevard Montparnasse, on a tiré le roi des Camelots. Comme moi, vous vous attendiez sans doute à un festival de drôlerie, de bagou et d'éloquence burlesque. Eh bien, pas du tout. Cette année, il semble que les Camelots parisiens se prennent au sérieux et réfléchissent à leurs conditions de commerçants non sédentaires, à leurs conditions de Camelots.
La question est, qu'est-ce qu'un bon Camelot? Et à cette question d'importance, la réponse varie. Selon un ancien roi, titré en 55, il faut être avant tout honnête et courtois.
Eh bien voilà, le métier de camelot, à mon avis, c'est de vendre de la marchandise. Bien de mes camarades et beaucoup de camelots de d'antan faisaient de la démonstration de baratin. Je crois que la preuve principale des choses cette année, c'est de surveiller son langage, de travailler correctement, de ne pas employer de langage trivial et cru, de faire le métier de camelot en commerçant.
Pour Roger Dubuis, communément appelé Roger la cravate, tous les moyens sont bons, au contraire, pour appâter le client et le ferrer. Élu roi des camelots l'an passé, Roger remet d'ailleurs son titre en jeu cette année.
Eh bien, tenez mes amis, aujourd'hui, vente publicitaire, je vais vous montrer encore plus fort ce bas étonnant, puisque moi-même je suis arrivé à m'en vendre deux paires.
C'est pour ça qu'on m'appelle l'abbé Pierre de la Guibole. Ce bas formidable, à 15 ans d'avance, il s'adresse aux femmes qui en ont assez d'acheter des bas le matin, le midi filé, le soir à la poubelle.
Si certains, comme Roger, débitent des carabistouilles, d'autres préfèrent capter l'auditoire avec des discours pleins de bon sens.
D'accord, je sais, mesdames, messieurs, je sais que la migraine, vous allez me dire, comme on m'a dit tout dernièrement, oui, mais elle revient une heure après. Et c'est pourquoi maintenant, je vais vous faire voir comment, dans le temps, nos grands-mères faisaient un révulsif d'une façon merveilleuse. Vieille méthode, vous allez dire, méthode ridicule, peut-être, mais méthode qui n'était pas plus bête que celle de maintenant. Oh, la science est belle, la maladie fait du progrès avec la science fait du progrès avec la maladie. Où ça va s'arrêter maintenant? On n'en sait pas, on ira peut-être voir la lune bientôt. Mesdames, messieurs, je vais vous présenter mon produit. Mesdames, messieurs, je vous sers.
Chaque 6 janvier, peu importe ce qui se vend au boulevard du Montparnasse, ce qui prime ce jour-là, c'est le talent, comme celui du père Lassouris.
Près de moi maintenant, le père Lassouris, on ne le présente pas, on l'écoute.
Bah oui, bah écoutez, je suis content de me retrouver comme tous les ans au milieu des copains qui viennent faire leur petit baratin.
Et ce déballage de baratin, eh bien le père Lassouris y tient.
Il faut maintenir les traditions. Comme c'est un truc qui commence à disparaître, le métier de camelot étant de plus en plus difficile, la circulation des bagnoles, la zone bleue, les flics, enfin tous les inconvénients qu'il y a dans notre métier, à part le mauvais temps qui lui a toujours été régulier, on est un peu plus embêté dans le travail qu'il y a une cinquantaine d'années.
Et c'est justement pour donner plus d'envergure au métier de camelot que les organisateurs ont ouvert ce concours à d'autres nationalités. Désormais, la finale qui se déroule au Moulin Rouge voit s'affronter des Suisses, des Belges et des Luxembourgeois en plus des Français. Et cette année-là, le vainqueur est encore Roger la Cravate. Le roi des camelots est donc français. En revanche, le vainqueur déroule toujours, comme on surnomme les porteurs de journaux qui circulent à vélo, est un Américain. Le jeune homme a fait le déplacement jusqu'à Paris pour recevoir son prix. Et Europe numéro 1 a décidé de dépêcher un jeune journaliste qui s'appelle Philippe Labro pour assister à la cérémonie.
Get your Minneapolis centennial issue of the Minneapolis Tribune.
C'est parce qu'il a crié ainsi pendant plus de 2 ans que le William Bevan, un Américain de 14 ans, a gagné un concours et se trouve aujourd'hui place de l'Hôtel de Ville à Paris. Il a gagné le concours des porteurs de journaux et place de l'Hôtel de Ville, il y a tous les porteurs de journaux, tous les cyclistes de Paris qui sont là pour lui offrir un cadeau. Mais puisque le cycliste d'Europe numéro 1 était là aussi, je lui ai laissé le soin de faire le reportage.
Maintenant, nous venons de remettre un super petit vélo moteur à notre jeune confrère américain. C'est un grand jeune homme blond, aux cheveux coupés très courts. Il paraît enchanté de son séjour à Paris. Et au nom de tous nos collègues, nous l'avons largement félicité. C'est très sympathique. Pour ma part, un séjour à New York ne serait pas pour me déplaire, bien entendu. J'aurais grand plaisir à aller rendre la politesse à notre jeune ami. Et bien voilà, maintenant notre petite cérémonie est terminée. Notre jeune ami rentre maintenant à l'hôtel de ville pour y recevoir les félicitations et compliments de monsieur du conseil municipal réuni à cette occasion. Et ici, Europe numéro 1, l'hôtel de ville.
Et voilà, vous voyez que si les cyclistes américains peuvent gagner des concours parce qu'ils ont bien servi leur journal, les cyclistes d'Europe numéro 1 pourraient aussi en gagner car ce sont d'excellents reporters.
Charms whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so.
taste your lips of wine any time, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream.
Vous venez d'entendre Dom et Phil, les Everly Brothers, et leur titre « All I have to do is dream ». Merci à toute l'équipe de la documentation d'Europe 1, Benoît Muckensturm, Sylvain Denis et Laetitia Casanova. La suite de notre exploration de l'année 1958 dans le quatrième épisode.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.